Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis grave heureuse de recevoir mon amie Sally, que vous connaissez peut-être plus sous le nom Crazy Sally sur les réseaux sociaux. Sally, je la connais pas depuis si longtemps que ça, mais on a tout de suite accroché. On partage la même vision, les réseaux sociaux, la même volonté de transmettre et d'éduquer à travers nos différentes plateformes, et à donner aux personnes qui nous suivent les outils pour prendre le pouvoir de leur vie. J'ai donc été vraiment contente de partager ce moment avec Sally, où vous pouvez en apprendre plus sur ses convictions et sa philosophie de vie. Le parcours de Sally montre à quel point il est nécessaire de s'émanciper des injonctions données par la société pour se réaliser pleinement, que ce soit personnellement et professionnellement. Car c'est en réussissant à dépasser les idées reçues, liées par exemple à la diet culture ou encore à son avenir, que Sally a réussi à s'accepter telle qu'elle est et à s'épanouir dans sa vie. Sally nous parlera aussi des troubles alimentaires dont elle a été victime durant toute son adolescence, leur origine et surtout la manière dont elle a réussi à les dépasser. On échange aussi dans cet épisode autour de son choix d'études et des questions qui se posent actuellement à elle, alors qu'elle fait face à un choix crucial pour sa vie future, devenir avocate ou continuer son travail de créatrice de contenu. J'ai personnellement trouvé beaucoup de résonance avec ses réflexions et ses expériences, et j'espère que vous pourrez aussi trouver des clés pour répondre à vos propres questionnements. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Charlène qui a laissé le commentaire suivant. Ton podcast est une vraie dose de motivation et les invités toujours inspirants. J'attends le nouvel épisode chaque semaine avec impatience. Merci et continue de distribuer des bonnes vibes, ma sis. Compte sur moi, Charlène, et merci beaucoup à toi et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Sally. Hello Sally.
Hello.
Je sais pas pourquoi, comme ton nom c'est en anglais, j'avais envie de dire hello.
Ouais.
Bref. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on va enregistrer cette petite conversation.
Ouais, vraiment. Donc ça me fait super plaisir d'être là.
Et du coup, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Alors, je m'appelle Sally et je suis créatrice de contenu donc, sur les réseaux, Instagram, mais principalement YouTube. Donc ma chaîne, c'est Crazy Sally et on parle de plein de choses sur mes réseaux. Lifestyle, mais surtout politique, émancipation, déconstruction et plein d'autres choses encore.
Ouais. Vraiment très intéressant, très polyvalent. Et alors, c'est marrant, je crois que je ne me suis même pas posé vraiment la question. Mais là, le fait que tu redises le nom de ta chaîne, ça m'interpelle. Pourquoi Crazy Sally?
Mais parce qu'à la base, quand j'ai créé ma chaîne, je ne savais pas du tout qu'elle allait prendre la tournure qu'elle a prise, en fait. Je ne savais pas que ça allait prendre une tournure un peu plus sérieuse, un peu plus posée. Et comme de manière générale, je suis quelqu'un, au contraire, de très jovial, très extraverti, pour moi, c'était vraiment logique. Genre, il n'y avait pas d'autre nom que je pouvais prendre, en fait. C'était Crazy Sally for sure, tu vois.
Ouais.
Donc, dans certaines vidéos, on retrouve un peu mon côté un peu crazy, un peu foufou. Mais c'est vrai que 80% du temps, c'est plutôt Very Serious Sally, tu vois.
Ouais, ouais. Voilà. Ouais, bah, je pense qu'on a eu le même ressenti. J'ai l'impression qu'on a... Enfin... J'ai l'impression qu'on utilise un peu les réseaux de la même façon, dans le sens où ouais. Je pense qu'on a vraiment envie d'aider, d'apprendre, faire apprendre des choses aussi. Toi, pourquoi à la base, tu avais commencé ta chaîne? Donc à la base, c'était juste pour partager un peu de tout. Et pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers un contenu plus sérieux?
Alors à la base, c'était surtout pour partager des astuces cheveux. Donc à la base, j'étais connue parce que j'avais beaucoup, beaucoup de cheveux crépus. Et c'est vrai que c'est très difficile quand t'es une femme noire avec des cheveux crépus de trouver des chaînes YouTube dédiées. Très souvent, c'est plus, on va parler d'extensions, de coiffure trop compliquée. Et je voulais vraiment mettre en avant le fait que voilà, on peut avoir des cheveux naturels, crépus, et les aimer, les entretenir, les faire pousser. Genre voilà, ça existe. Il y a vraiment le préjugé de la femme noire qui a pas de cheveux, qui nous colle à la peau, surtout dans notre communauté hein, principalement. Donc je voulais un peu voilà, réduire à néant ce cliché. Et j'avais donc créé ma chaîne en donnant des astuces cheveux, beauté, etc. Sauf que finalement, comme ça touchait un petit peu le côté faire évoluer les mentalités, en commençant par le cheveu, mais après par le fait d'être une femme noire, etc., etc., en partageant mes expériences, en m'ouvrant en fait finalement à mon public, et ben indirectement, j'ai commencé à prendre ben, le chemin que j'ai pris maintenant, c'est-à-dire vraiment éduquer de manière générale sur la communauté noire et sur plein d'autres choses, pas uniquement afro-centré.
Ouais, c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez dingue. Enfin, en fait, en tant que blanc et que blanche, on se rend pas compte à quel point les personnes noires n'ont pas été représentées dans les médias.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment enfin, j'ai été surprise, tu vois, quand j'ai réalisé que les femmes noires n'aimaient pas leurs cheveux.
Ouais.
Que moi, je trouve incroyable. Ouais. Et genre, à chaque fois que tu poses une vidéo sur Insta des vœux, je me sens obligée de commenter. Mais est-ce que toi, t'as toujours réussi à t'accepter ou t'es passée par cette phase où j'ai l'impression que malheureusement, toutes les fillettes noires passent, qui est un peu de rejeter sa nature de cheveux?
Bah, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était fan de mes cheveux, qui a toujours fait en sorte que je les aime, et pourtant elle est même pas noire, ma mère elle est marocaine, donc on a même pas vraiment la même texture de cheveux, mais elle était toujours vraiment à fond, elle s'est occupée de mes cheveux comme personne n'aurait pu s'en occuper, elle a vraiment appris à, voilà, à les entretenir et à les aimer. Mais bien évidemment quand je suis arrivée franchement vers le collège, je me sentais vraiment mise à l'écart en fait, enfin je sentais que je rentrais pas dans les critères de beauté, en fait tu le ressens vraiment très jeune quoi, c'est comme quand t'es petite et t'as plein d'acné, tu sens que c'est pas beau, tu vas pas te faire accepter à cause de ça. Donc je cherchais des moyens de lisser mes cheveux, j'ai été partie faire un brushing en cachette, etc. Et à partir du lycée, quand je suis entrée en seconde, j'ai commencé à me défriser les cheveux. Donc il y a un processus chimique pour casser les boucles et les rendre totalement lisses. Et c'est à mes 18 ans que mes cheveux ont commencé à tomber quoi. À force de les défriser pendant 3-4 ans, les cheveux tombent en fait, parce que c'est trop chimique, c'est trop puissant. Et à partir de là, je me suis dit, bon, girl, à la base, t'avais des cheveux super longs, super beaux, arrête de faire n'importe quoi et réapprends à les aimer et on repart comme ça.
Et est-ce que de manière générale, vu que je pensais pas forcément commencer par là, mais vu qu'on en parle, parlons-en, est-ce que comment t'as vécu en fait que... est-ce que tu as vraiment ressenti au cours de ton adolescence et un peu cet âge où on se construit d'autres difficultés à t'accepter, que ce soit du fait de ta couleur de peau, que ce soit du fait de ton physique? Enfin, on passe un peu toutes par là, au final, qu'on soit blanche ou noire, mais noire, tu rajoutes les discriminations en plus.
Ouais.
Mais c'est un sujet dont je parle pas forcément sur le podcast, mais comme tu es une amie, j'aime bien faire aussi des formats plus genre conseils de 6, tu vois.
Oui, clairement.
Genre, comment toi, tu as réussi à t'accepter? Parce qu'aujourd'hui, genre, you're shining et ça se voit, tu vois, mais j'imagine que ça n'a pas été aussi facile.
Non.
Donc voilà, je trouve que les conseils sont bons à partager.
Ah,
quoi.
Mais non, pas du tout. Bah, en fait, plein de traumatismes en fait différents dans ma vie sur plein de choses. Bon, alors il y avait les cheveux, mais ça c'était une partie. Puis après, il y a eu forcément la couleur du peau, mais j'ai réussi très rapidement à me faire une armure en quelque sorte pour passer au-dessus. Et surtout, moi, il y a eu l'acné et le poids. Donc, j'ai vraiment cumulé les problèmes, vraiment. Le poids, c'était parce que ma sœur était très mince, très très mince. Naturellement, elle faisait rien, mais elle avait vraiment une morphologie de mince, voire maigre. Elle était vraiment très très mince. Et forcément, moi, j'avais un poids normal, mais à côté d'elle, bah, t'avais l'impression que j'étais un petit peu enrobée. Et comme mes parents font une fixette sur le poids, je n'ai jamais compris pourquoi, mais ils sont très, très obsédés par le poids en fait. Comme mon père est diabétique, ma mère a beaucoup de diabète dans la famille, donc ils font très attention, ils ont peur de prendre un kilo. Et moi du coup j'étais la cible de toutes les remarques, en mode oui, il faut que tu fasses un régime, là t'es trop grosse, là t'es ci, là t'es ça. C'était vraiment hyper violent quand j'y repense en fait. Quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas compte, même si ça me blessait. Mais en grandissant, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. Et du coup, j'avais des fixettes débiles maintenant quand je me rends compte. Mais par exemple, quand mes cuisses ont commencé à se toucher, alors là, c'était la fin du monde. J'ai commencé à faire des régimes, genre régime Cohen, là où tu manges deux plats d'haricots par jour. J'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Mon anorexie a commencé là, ma boulimie a commencé là, hyperphagie a commencé là. Donc vraiment, et ça a duré jusqu'à maintenant... un an et demi vraiment pour que je m'en sorte.
Ah ouais, donc t'as eu 5 ans de phase de troubles alimentaires?
Ah oui, clairement.
Ah ouais, c'est dingue. Ça te dérange pas d'en parler un peu plus?
Non.
Quand est-ce que tu penses que ça s'est déclenché? Est-ce que c'est le fait de faire des régimes qui t'a peut-être entraîné d'abord dans une orthorexie? Pourquoi? Enfin, pas pourquoi, mais quand est-ce que t'as commencé à te faire vomir? Comment tu te sentais et qu'est-ce qui t'a aidé surtout à t'en sortir?
Alors j'ai commencé, tout a commencé d'un coup et je m'en souviens très bien, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais partie voir ma sœur à Nancy et j'avais envie de faire mon régime parce que je m'étais pesée la veille et que je faisais 70 kilos et que ce n'était pas du tout normal et qu'il fallait à tout prix que je redescende à 65, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est comme
une espèce d'obsession des chiffres. Hein,
des chiffres, les courbes, etc. Donc je me disais, il faut que je retourne à 65. Et donc j'étais à Nancy chez ma sœur et je me souviens que j'avais donc commencé le fameux régime où tu dois manger, je ne sais pas, que des arrières Recover, enfin, j'ai même pas envie de donner le nom du régime.
Mmh.
Et il se trouve que j'avais très faim parce que je ne mangeais rien. Et donc, j'avais vidé, je crois, un paquet de pop-corn que ma soeur avait, etc. Et je me suis sentie hyper coupable et je me suis dit, non, mais il faut que ça sorte, vraiment. Et j'avais déjà commencé avant à faire des recherches sur comment se faire vomir, etc. Sans jamais vraiment passer le stade. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, j'essaye. Et je me souviens, j'étais allée aux toilettes, j'avais galéré pendant, je sais pas, genre, franchement, 15-20 minutes. Et puis après, j'ai réussi à me faire vomir. Et je n'ai jamais arrêté. C'est horrible, ce truc.
Pendant 5 ans.
Ouais, franchement. Pas tous les jours.
Ouais.
Mais franchement, par phase, pendant 5 ans, il n'y avait pas un mois où je ne me faisais pas vomir, au moins une fois. C'était
d'accord.
Pas possible. Pas possible.
Et c'était quoi, c'est l'impression de devoir éliminer la nourriture,
ouais. Bah, il y avait plusieurs phases. Il y a eu des phases de boulimie vomitive, vraiment, typiquement. C'est-à-dire que tu pètes un plomb, tu manges tout le frigo. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me souviens, pour l'anecdote, mon père travaillait dans un hôtel et le matin, il ramenait le petit-déj à chaque fois. Et il ramenait beaucoup de baguettes de pain. Et c'est à ce moment-là où j'ai développé une obsession pour le pain, parce que justement, quand tu as des troubles du comportement alimentaire, tu pètes un plomb, en fait, hein, ouais. Vraiment. Et je pouvais manger 3 baguettes de pain, mais vraiment 3 baguettes de pain avec beurre, jambon, fromage. Et après, je partais aux toilettes et j'éliminais tout, en fait. Mais c'était pas une volonté d'éliminer, c'était juste une crise de boulimie où j'avais envie de manger tout ça parce que j'avais un vide en moi. Et après, sentiment de culpabilité, tu sais que bah, t'as déconné et que si tu gardes ça en toi, tu vas prendre un kilo le lendemain, donc c'est pas possible. Et voilà, et tu pars aux toilettes éliminé. Donc ça, c'était mes phases de boulimie vomitive. Après, elles ont alterné avec des phases d'hyperphagie, donc où je mangeais, et je ne me faisais pas vomir, tout simplement parce que j'en pouvais plus, en fait. Il y avait aussi des moments où c'était plus possible, j'étais épuisée. Et après, ça a repris avec des phases de... C'était même plus de la boulimie, c'était vraiment de l'addiction au fait de se faire vomir. C'est-à-dire que je pouvais manger et j'avais le ventre qui était toujours plat. Il n'y avait pas ce délire de ventre gonflé, t'as besoin d'éliminer, rien. Mais le simple fait d'avoir ingurgité quelque chose, ça me dégoûtait. Et ça, c'est les phases où, par contre, je suis rentrée vraiment dans une anorexie mentale. Je ne mangeais plus rien pouvait rentrer dans mon estomac. Et et comme ça, il y avait des phases, tu vois, ouais. Tout le temps. Et ça se jonglait.
Et ça, c'est la dernière phase par laquelle t'es passée ?
L'anorexie mentale, et après je suis repartie dans la boulimie vomitive.
D'accord. Ouais. Bon, alors, plein de choses à dire. Déjà, parce que tu vois, c'est dingue, parce que moi j'en parle beaucoup, alors que je n'ai jamais connu l'anorexie ou la boulimie.
Ouais.
J'étais orthorexique, donc c'est plus le contrôle de.
Ouais.
Mais en fait, c'est fou, parce que je connais toute la théorie derrière, juste parce que ça, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, vu que bah, beaucoup de personnes qui me suivent en sont victimes.
Oui.
Et c'est fou, le fait que tu en parles là, ça fait tellement écho à tout ce que je sais,
ouais.
Tu vois, sur la théorie de, en fait, quand tu manges pas assez, ton corps, il entre en starvation mode.
Ouais.
Et donc, en fait, au bout d'un moment, il va craquer. Et donc, en fait, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être connu des phases de crise alimentaire, d'hyperphagie ou de boulimie, en fait, c'est votre corps qui réclame à manger parce que vous ne lui donnez pas assez à manger à la base. Et si vous mangez assez tous les jours sans vous restreindre, non, vous n'allez pas prendre de poids et vous n'allez plus avoir de crise parce que vous allez juste manger assez. Et moi, pour le coup, comme j'étais quand même dans cette phase orthorexique, j'ai quand même connu, enfin du coup je mangeais quand même pas assez,
oui.
Je le voulais pas, mais c'était un fait, par rapport en plus à tout le sport que je faisais et tout,
oui.
Et donc j'ai quand même, c'est vrai peut-être au final, quand j'y repense, connu des espèces de crises, tu vois, je me faisais peut-être 2 fois par mois des brunchs à volonté,
ouais.
Et en fait c'était mon espèce, mais tu vois, sain, healthy,
ouais,
pour rester dans mon délire de je donne que du bon à mon corps,
oui, oui.
Mais comme du coup pour moi c'était en mode porte ouverte, c'est bon, c'est étiqueté healthy,
ouais.
Je peux me gaver,
ouais.
Et en fait mon corps se gavait parce que au final, les 2 dernières semaines, il n'avait pas assez mangé, tu vois. Et après, j'avais pour le coup cette culpabilité alimentaire. Je ne me faisais pas vomir parce que voilà, je voulais vraiment être sûre que moi, c'est sain, c'est healthy pour moi. Donc, se faire vomir, ce n'était pas sain.
Ouais.
Mais bref, donc tout ça est très fucked up. Tout ça est dans tous les cas apporté par la diet culture.
Ouais, totalement.
Mais du coup, en effet, je savais pas que tu étais passée par autant de phases.
Ah, si, si,
et,
si.
Et du coup, ben, comment est-ce que tu en es sortie? Parce que putain, it's not easy, quoi. C'est parce qu'en fait, je pense que beaucoup de personnes se rendent compte que ce n'est pas sain. Mais en fait, c'est à la fin, tu fais même plus exprès. C'est-à-dire que tu as une peur intérieure de grossir.
Oui.
Et comme tu t'es fait vomir, tu as peur que jamais tu arrêtes de te faire vomir, tu prends du poids. Et pour moi, la solution, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est réaliser que prendre du poids, ce n'est pas grave.
Voilà.
Ce n'est pas grave. Et vraiment, dans le livre dont je t'ai parlé, la Woman Don't Owe You Pretty de Florence Given, à un moment, il y a cette phrase qui dit: tu n'es pas En tant que femme, tu n'as pas de loyer à payer. Enfin, attends, il faut que je retrouve la phrase exacte. Mais c'est en gros, c'est pas parce que t'es une femme que tu dois être mince. Et en gros, t'as pas de loyer à payer en tant que femme pour être mince.
Enfin, oui.
Et tu vois, ça paraît tellement évident. Et pourtant, ben, on grandit avec cette idée qu'on doit être mince.
Oui. On se force clairement. Ouais, non, ça c'est une réalité. Mais après, c'est ça aussi quand t'es éduquée dans la diet culture directement, parce que moi, ça a été mon cas. D'être éduquée dans cette idée où si t'es pas mince, ça va pas. Mais vraiment, moi je me souviens, j'avais des anecdotes. Comme dit, quand j'y repense, ça me fait de la peine. Parce que ça me fait de la peine pour le petit moi qui entendait ça, en fait. Mais heureusement, je m'en rendais pas trop compte. Mais par exemple, à Noël, je me souviens, on avait tous reçu des doudous. Donc il y a mon petit frère et ma grande sœur. Ils avaient reçu des doudous, donc des nounours, doudous classiques. Et moi, genre, on m'avait offert un doudou en forme de vache. Et je le remets. Et quand j'avais demandé pourquoi j'ai la vache et tout, et ma mère, elle avait dit en arabe, parce que t'es la toboza. Et toboza, ça veut dire genre t'es la petite grosse, tu vois. Et c'est des phrases comme ça, quand t'es un enfant, tu les intègres et par la suite, ça te suit en fait, et que tu le veuilles ou non. Et donc j'étais vraiment très consciente du poids en fait, à un âge où j'aurais jamais dû être consciente de ça. Surtout quand je regarde, encore si j'étais vraiment en surpoids ou un enfant obèse où là ta santé est en danger. Je peux comprendre que tes parents, ils ont peur pour toi et tout. Mais moi, j'étais normale. Quand je dis que j'étais normale, c'est normal. J'ai peut-être le petit bidou et tout, mais tout à fait normal. Et pourtant, on est parti me mettre chez le pédiatre, on m'avait interdit les goûters.
Mais quelle horreur!
Vraiment abusé. Mais tout simplement parce que ma sœur était tellement mince qu'on se disait,
c'est pas normal si elle...
C'est pas normal si elle a un poids normal, alors que non. Mais c'était vraiment une diet culture dans la famille, quoi.
Ouais, en plus de celle de la société.
Oui.
Parce que tu me diras, moi aussi, mes parents étaient dans la diet culture, mais ça a surtout été la société, parce que pour le coup, moi j'étais hyper mince, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, comment est-ce que t'en es sortie? Parce qu'en plus, c'est assez récent. Donc,
oui, très récent.
Enfin, hyper intéressant.
Total. Alors, j'avais essayé à la base d'aller voir un nutritionniste. Une nutritionniste, c'était une femme, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que finalement, la nutritionniste écoute tes problèmes en disant oui, alors voilà, les TCA, enfin les troubles du comportement alimentaire, c'est pas bien, faut arrêter, etc. Mais pour te faire sortir de ça, elle t'impose un programme. Enfin, moi, la mienne m'avait imposé un programme alimentaire, donc finalement je sors d'une
forme de contrôle pour en retrouver un autre.
Je devais noter tout ce que je mangeais dans un carnet pour m'assurer du suivi, etc. Bon bref, j'ai arrêté. Ensuite idem, j'étais partie voir un diététicien parce que c'est pas la même chose, mais c'était exactement la même chose. Pire encore, il m'avait proposé carrément de compter mes calories, alors que c'est la première chose à ne pas dire à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Comme ça devient absolument obsessionnel. Il y avait un moment dans ma vie où je voyais une assiette, je voyais au coup d'œil combien de calories j'allais ingurgiter. Genre, c'était complètement n'importe quoi. Et donc, en fait, tout simplement, je me suis fait une raison. C'est-à-dire que je me suis mise dans des situations où je ne pouvais pas vomir, en fait, tout simplement. Pour me forcer, en fait, à ne pas vomir. Donc, typiquement, par exemple, c'était des petits clins d'œil que je faisais, par exemple, à mon petit frère. Personne dans ma famille, d'ailleurs, n'était au courant. Et j'allais dire, par exemple, si je vais aux toilettes et tout, tu me fais une réflexion ou quelque chose comme ça, tu vois, pour être sûr que moi-même, en fait, j'allais avoir une espèce de micro-barrière en me disant, mais j'ai prévenu quelqu'un, donc je ne vais pas aller aux toilettes comme ça, tu vois. Ou quand j'allais chez des amis, par exemple. Très souvent, par exemple, au lieu de manger dehors, je mangeais chez des amis. Parce que quand tu es chez tes amis, tu as beaucoup moins d'aisance à aller te faire vomir dans leurs toilettes, tu vois. Parce que tu dis qu'il y a forcément peut-être une odeur qui va rester ou tu sais pas, on n'est jamais certain. Et manger aussi, je sais que c'est bizarre à dire, mais je te promets qu'à un certain moment, je privilégiais toujours les endroits où je savais que les toilettes étaient pas clean. Parce que je savais que du coup, même si je mange dehors, parce qu'il y avait des fois où je mangeais au restaurant et je me faisais vomir dans les toilettes du restaurant. Parce qu'ils étaient clean. Donc je m'imposais d'aller, manger au Subway, au Domino's ou je sais pas quoi. Comme ça, je suis sûre que je peux pas vomir, encore une fois, tu vois. Donc c'était des situations comme ça que je me suis imposée pendant bien 2-3 mois. Je continuais à me faire vomir de temps en temps quand j'étais chez moi, mais ça a commencé à baisser drastiquement. Et à partir de là, j'ai réussi à casser le cercle de l'habitude, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé à apprendre à manger, à même parfois me gaver, parce que je faisais toujours des crises d'hyperphagie. Ça a été vraiment la dernière phase, en fait. C'était des crises d'hyperphagie modérées, où je ne vomissais pas, et où j'ai recommencé à apprendre à avoir le ventre plein, et de pas péter un plomb, vraiment. Parce qu'il y avait un moment où c'était des crises. Je pouvais pas rester avec le ventre plein, c'était pas possible. Donc ça s'est allégé comme ça, petit à petit. Et surtout, je suis partie en vacances. Je me souviens que ça m'avait beaucoup aidé. J'étais partie où ? C'était en Espagne. Je ne sais plus où j'étais partie, mais j'étais partie en vacances. Et je ne pouvais pas me faire vomir aussi, parce que c'était plus compliqué. C'était l'hôtel, je partageais la chambre en plus, c'était avec ma famille. Donc ça allait être grillé très rapidement et c'était hors de question qu'on le sache.
Et ta famille ne savait pas ?
Jamais.
Sauf ton petit frère, tu me disais.
Vite fait. Franchement, ouais. Il s'en doutait peut-être
soeur,
un minimum. Ma soeur, je lui avais dit, mais à demi-mot. Et je pense qu'elle a dû se dire, elle est peut-être dans une phase, quelque chose comme ça. Mais pas plus important que ça. Donc non, vraiment, c'est quelque chose qui est toujours passé inaperçu. Et j'ai toujours voulu que ça soit inaperçu. Et après, ça a été le fait d'apprendre tout simplement vraiment à accepter mon corps, mais vraiment à l'aimer pour de vrai. Pas juste comme ça, à dire, ouais, moi j'aime mon corps, etc. Non, vraiment l'aimer tel qu'il est et apprendre à me mettre en valeur avec mes formes, qui étaient d'ailleurs inexistantes. Hein, franchement, même je me regarde, je me dis, mais girl... Parfois je parle de mes formes comme si j'étais modèle grande taille alors que c'est pas du tout le cas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment pour te dire à quel point la société c'est fucked up. T'as un bourrelet dans le dos, tu te dis déjà oh my god, genre c'est n'importe quoi. Donc j'ai commencé à m'affirmer avec le corps que j'avais tout simplement et voir qu'en fait bah ça plaisait. Je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté tout ça, donc c'était un an et demi, j'avais quoi, c'était vraiment vers mes 23 ans. Il y a eu l'année de mon Master 2, c'était l'année de mon Master 2, je m'en souviens très bien, où c'est une année où j'ai vraiment été brillante scolairement, vraiment j'étais plus qu'épanouie, et je plaisais énormément autour de moi, et je me suis dit, bah girl, tu fais 5 kilos de plus, je crois que c'était 5-7 kilos de plus qu'avant quand tu pétais des plombs, et t'es au summum de ta vie, t'es au top de ta vie scolaire, t'es au top de ta vie relationnelle, tout ce que tu veux, j'étais partie vivre à Londres, enfin je vivais ma meilleure vie, sans me faire vomir, et c'est là où je me suis dit, bah... C'est peut-être la recette, le fait de changer d'air, de changer de fréquentation. Et c'est comme ça, ça s'est arrêté.
C'est hyper fort, parce que franchement, tu t'es auto-guéri, quoi.
Ouais, vraiment.
Parce que bon, moi, j'encourage chacun et chacune à se tourner vers des professionnels de santé ou des personnes de confiance. Mais bon, c'est vrai qu'au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et moi aussi, je me suis sortie seule, et avec l'aide de personnes sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais c'est marrant parce que toi... J'ai l'impression que ça a été vraiment un travail, plus en effet de discipline presque et de casser l'habitude et beaucoup moins, comme c'était le cas pour moi, de déconstruction. Oui. Moi, c'est vachement passé par le mental, tu vois, de me demander mais pourquoi tu veux être fit à tout prix ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que c'est pas pire ? Est-ce que tu passes pas à côté de plus de choses en étant aussi extrême et en étant aussi inflexible, rigide ? Et toi, ça a plus été... j'ai une mauvaise habitude néfaste que j'ai mis dans ma vie et il faut que je m'en débarrasse, quoi.
Oui.
Donc t'as pas, genre, je sais pas, suivi de personne qui avait peut-être un corps qui ressemblait plus au tien ? Est-ce que t'as quand même fait peut-être ce tri sur les réseaux sociaux ? Parce que moi, je trouve que ça joue de ouf, en fait,
bien
la
sûr,
personne qu'on suit.
Totalement.
Tu suis des body goals hyper toxiques qui te ressembleras jamais. Ça joue de ouf sur ton inconscient. Enfin, moi, j'ai vraiment suivi des personnes qui parlaient de déconstruction, qui parlaient d'acceptation de soi, qui avaient des corps divers et variés, tu vois. Et je pense que ça joue vraiment beaucoup plus que l'on ne croit, quoi.
Totalement. Ça, c'est par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, bon, Dieu merci, je sais pas pourquoi sur les réseaux, j'ai jamais eu cette tendance à vouloir suivre des fit girls, etc. Ça n'a jamais été trop mon truc. En plus, c'est vrai que dans la communauté noire et même dans la culture hip-hop que je suis beaucoup plus, le corps, ça va être un corps beaucoup plus formé, mais déformé. Tu vois,
ouais,
dans le sens,
taille
super mince et puis sang énorme, fesses énormes, mais je me sentais déjà plus à l'aise avec cette représentation là parce que au moins mon corps ressemblait un peu plus à ce corps là que le corps classique de la fit girl hyper mince, tu vois. Moi, depuis que je suis petite, pour te dire à quel point j'étais obsédée par la minceur à cause aussi de toute ma famille et tout mon entourage, mon corps que je voulais avoir c'était le corps de Naomi Campbell, tu vois, donc corps mannequin, taille 36 qui bouge pas. Et mine de rien, en fait, la hip-hop culture m'a aidé au moins à trouver d'autres modèles de beauté déformés, mais qui me ressemblaient déjà un petit peu plus.
Ouais.
Mais c'est vraiment passé pas tellement sur les réseaux, effectivement, parce que Dieu merci, j'ai cette capacité à quand même m'en détacher. Genre, je sais que c'est pas moi et que je vais pas y arriver. Mais ça a été vraiment passé par, c'est vraiment passé par l'acceptation des autres, en fait, finalement. Même si, en fait, c'est dur à se dire ça, mais c'est vrai que voir que bah, tu plais quand même à des garçons, que tes copines te font quand même des compliments, bah, mine de rien, ça a quand même beaucoup joué là-dedans. Et même moi-même, quand je me regardais dans le miroir, je me disais, bah, girl, tu slay là, en fait, quand même, tu vois, genre.
Ouais, t'as appris à te mettre en valeur, ça c'est quand même assez important, c'est vrai, parce qu'il faut se plaire en fait.
Vraiment.
Il faut se plaire et pour ça, il faut quand même réussir à déconstruire cet idéal de beauté standardisé.
Totalement.
Et enfin, c'est ouais, je pense qu'en effet, comme tu as très bien dit, tu étais épanouie, donc tu brillais.
C'était
quoi.
Vraiment ça, franchement.
C'est que
ça.
Tu fasses 1 kg de moins, 1 kg de plus, c'est si tu es épanouie ça. Et que tu n'es pas dans la frustration vraiment. Et dans le contrôle et que tu es bien dans ta peau, ça se
c'est
voit.
C'est vraiment
quoi.
Ça, en fait. Et c'est le fait que en fait, tu te plaises à toi, que tu prennes soin de toi, en fait, que tu t'épanouisses vraiment, qui fait que forcément les gens en fait, le ressentent. C'est comme un aura, c'est une énergie positive qui
ça,
ressort.
Ça se renvoie, ouais.
C'est ça. Donc forcément, les gens, bah, tu vas leur plaire et ça va te faire plaisir de voir que tu plais et en fait, tu te plais encore plus. Et, tu vois, c'est un cercle vertueux. Mais c'est vrai que dans mon cas, c'était aussi une discipline que je devais m'imposer parce que je savais que c'était vraiment nocif pour ma santé et que j'ai commencé à avoir... Enfin, il y a des grosses conséquences, en fait, quand tu es anorexique, boulimique, mais surtout quand tu as le réflexe de te faire vomir. C'est que le vomi, c'est hyper acide. Et donc, avec le temps, ça commence à attaquer tes dents, ça commence à attaquer ta gorge. J'étais quelqu'un qui n'avait jamais d'affection au niveau de la gorge et j'ai commencé à avoir de plus en plus de grippe, de plus en plus la toux, la voix qui déraille un petit peu. Et ça, c'est parce qu'en fait, tes conduits commencent à être attaqués. Les dents aussi, avant j'avais des dents mais super blanches, là maintenant elles sont légèrement plus jaunes, donc c'est pas la catastrophe, mais c'est quelque chose que j'ai vu, donc tu te dégrades en fait physiquement, tu commences à avoir la peau qui est plus terne, tu te creuses. Je sais que dans mes périodes où je me faisais beaucoup vomir, j'étais fatiguée, creusée, le teint horrible.
C'est clair, non mais vraiment
tu sais
l'impact sur ta... parce que moi franchement tu vois c'est con à dire, mais même tu vois au-delà de l'aspect physique, en fait je sais même pas comment... des personnes peuvent ne pas manger assez, ouais. Parce qu'en fait, en termes d'énergie,
ouais.
En fait, je
ouais.
me dis, mais
ouais.
comment ouais. ils tiennent debout ? C'est-à-dire vraiment des filles, tu vois, qui m'écrivent et qui, ouais. qui me disent qu'elles mangent tant de calories par jour, qui sont vraiment ouais. pas assez, et je suis là, mais je sais pas, c'est, en fait, c'est tellement... pourquoi ne pas vivre la vie à 100 à l'heure et enfin, je sais pas comment tu te sentais, mais j'imagine que ça devait... prendre ça devait avoir un tel impact sur tout le reste de ta
ouais,
vie.
Ouais, totalement.
Genre,
totalement.
Même les cours et tout, enfin...
En fait, c'était bizarre parce qu'en même temps, c'est ça qui est compliqué avec ces troubles-là, c'est que c'est très panaché en fait. C'est paradoxal. D'un côté, tu vas avoir le côté un peu rush de la perfection parce que t'es contente. Tu t'es fait vomir, tu vas pas prendre de poids, t'as respecté le programme. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là en fait de discipline exacerbée où tu dis bon, c'est bon, je suis dans les clous. Vraiment, je suis dans les clous. Ok, j'ai fait ma crise de boulimie, mais c'est pas grave. Là, je me suis fait vomir, tout va bien. La journée peut reprendre. C'est vraiment ça. Quand j'étais dans mes périodes d'anorexie, ok, t'as rien mangé, t'es fatigué, mais c'est pas grave. Au moins, tu tiens le coup, tu suis le programme. Et du coup, de l'autre côté, l'autre penchant, malheureusement, c'est qu'effectivement, ton corps manque drastiquement d'énergie. Et surtout, et ça, les gens ne le savent pas, je pense, c'est que tu perds un temps énorme à te faire vomir. Et je sais que ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais c'est un temps énorme en fait, parce que tu te fais vomir. Moi, il y avait des jours où j'avais 4 crises faciles dans la journée, et c'est une heure que tu perds à chaque fois en fait. Donc, dans une journée où tu te fais vomir 4 fois, tu perds 4 heures parce que tu vas aux toilettes, le temps que tout sorte, après nettoyer, repartir, tu te sens un peu mal, tu te reposes, tu repars, puis après une deuxième crise où tu recommences à manger, ou tu as mangé une feuille de salade, tu pètes un plomb, ça te plombe ta journée. Donc il y avait des journées où je ne restais pas chez moi parce que je savais qu'avec les toilettes à disposition, je pouvais perdre ma journée complètement.
Putain, c'est vraiment... je suis contente qu'on en parle. C'est la première fois, je crois, que j'ai vraiment le détail, tu vois, d'une personne qui a vécu l'anorexie de manière aussi détaillée. Et ouais, donc vraiment, force et honneur à toi, quoi, dans
merci.
La sortie.
Ouais,
ça me fait, tu rayonnes. Mais en plus, tu avais les réseaux, du coup, à cette époque-là. Non, t'avais pas encore les réseaux ?
J'ai vraiment terminé, j'ai réussi à m'en sortir pile avant d'ouvrir ma chaîne. Enfin, ça coïncidait avec l'ouverture de ma chaîne. Et je pense que c'est même ça qui a beaucoup aidé aussi.
Ouais,
parce que...
à pérenniser et à pas retomber dedans. Parce
totalement.
Que maintenant, t'es un modèle, quoi. Donc,
c'est
mine
ça.
De rien, il y a aussi...
Franchement, vraiment, c'est ça. Et puis même, je m'occupais énormément. Donc, ma vidéo,
t'as
j'ai envie qu'elle sorte à 17
heures.
J'ai pas le temps d'aller aux toilettes.
Ouais.
Donc, non, vraiment. Et même, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai même pas encore... eu le temps d'aborder sur ma chaîne parce que je me sentais pas encore prête à le faire vraiment, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai toujours eu en tête de partager parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées par ça et qu'on
énormément.
Ne le dit pas, mais je te promets qu'à mon avis il y a au moins une femme sur 3 allez qui est passé par un épisode de troubles du comportement alimentaire. Au
non,
moins une fois dans
en fait, voilà, la vidéo que j'ai faite sur la diet culture, je suis vraiment contente des retours que j'ai eus parce qu'en fait, ça a permis, je pense, à beaucoup de femmes de réaliser qu'elles-mêmes avaient des formes de troubles alimentaires.
Oui.
Parce que, tu vois, je l'ai dit, la diet culture, elle est hyper intériorisée. Donc, en fait, même faire des réflexions de type, tu sais, féliciter les amis qui ont perdu du poids.
Oui.
Ça
oui.
paraît anodin, mais en fait, du coup, tu la félicites d'avoir perdu du poids. Donc, ça sous-entend qu'elle est un peu à blâmer si jamais elle en a pris.
C'est exactement ça.
Le fait, enfin, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent ont déjà culpabilisé.
Bien sûr.
Après avoir mangé, je sais pas, un fondant au chocolat. Pourquoi? Je peux te dire que nos mecs, ils culpabilisent pas,
c'est,
tu vois.
T'as tout compris. Ouais.
Parce que c'est pas du tout les injonctions qu'on leur a imposées. Et moi, je trouve que réaliser aussi à quel point les femmes en sont victimes et pas les hommes, ça m'a aussi aidé un peu à me dire, enfin, dans mon combat féministe,
en fait,
je vais pas perdre mon temps à me peser alors que mon mec, il s'en fout de combien il pèse. Enfin, pourquoi moi, je devrais me préoccuper de mon poids?
Ouais.
Et ça, enfin voilà, je trouve que aussi, voilà, le de réaliser que c'est un combat qui concerne aussi d'autres femmes. Enfin, moi, je sais que cette idée toujours je suis vraiment très portée par ce côté où je me bats pour les autres, tu
mais
vois.
Bien sûr, mais bien
et,
sûr.
Et du coup, c'est aussi moi pour ça que je me suis acceptée, quoi. C'est au final, je recevais tellement de messages de filles qui me remerciaient de parler, d'acceptation de soi et de montrer qu'en fait, moi, j'avais pris du poids et que c'était pas grave. Que vraiment, moi, je dis toujours, ça a été comme une thérapie, en fait.
Ouais,
moi, je l'ai fait via les réseaux, ma thérapie, parce que je prêchais des choses auxquelles j'avais envie de croire, mais que je croyais pas forcément encore.
Ouais.
Et à force de l'écrire,
de
le lire,
c'est totalement vrai.
Et de voir le retour que ça avait, ça m'en a convaincue vraiment de manière intime. Alors, les amis, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, parce que on profite des derniers rayons de soleil. Bon, là, il fait même nuit, puisqu'on est encore en train d'enregistrer un podcast de soirée. Je sais plus en plus en ce moment, mais je kiffe. Donc voilà, on veut du vrai. Bon, bah écoute, hyper intéressant. En passant à un autre sujet, mais bon, qui sera peut-être lié, j'ai quand même envie un peu de parler de tes études.
Oui.
C'est un sujet dont on te parle beaucoup sur le podcast, parce que, c'est très difficile de s'accepter déjà en tant que femme physiquement, mais même la question un peu hyper difficile de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qui est un peu comme une épée de Damoclès
qui t'attend, ouais, grave.
Comment est-ce que toi tu l'as vécu cette période où t'as dû choisir ton orientation?
Franchement, c'était un peu tout et n'importe quoi. Un peu tout et n'importe quoi, parce que, encore une fois, dans ma famille, moi, j'avais un père qui est un S pur, un docteur en chimie, et qui voulait à tout prix avoir un S, en tout cas, quelqu'un qui faisait S dans la famille. C'était obligatoire. Ma sœur avait grillé le spot parce qu'elle est partie faire L, donc forcément, moi, j'étais un petit peu en mode « girl, t'as intérêt à faire quelque chose qui contient un S ». Donc, soit c'était S, soit c'était ES à la rigueur. Donc, déjà là, ça avait commencé. J'ai choisi ES difficilement parce que mon père est en mode bon, je vais pas non plus la forcer pour ça. Mais c'est vrai qu'après, quand il a fallu choisir ce que j'allais faire, c'était soit école de commerce, soit trouve. C'était soit ça. Mon père était vraiment en mode moi, j'ai envie d'être sûre en fait pour mes enfants, de pas avoir à me casser la tête. Si tu fais une école de commerce, je sais que quand tu sors, bah au moins t'as un poste, ne serait-ce qu'un peu intéressant, quoi. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie. Je voyais très bien ce que ma sœur faisait, parce que ma sœur a fait une école de commerce alors qu'elle était en L, mais elle a réussi à faire son petit switch. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Je supporte pas être assise. Je pouvais pas. Donc, moi, c'était soit je voulais faire des études pour devenir prof, soit c'était pour faire du droit, parce que j'avais en tête de devenir avocate ou juge. Un métier, tu vois, qui bouge, où t'apprends des problématiques sociales, tu donnes ton avis, j'aimais trop. Et mon père m'a dit bon prof c'est chaud un peu tu vois.
C'est horrible. On a vécu la même chose, c'est une espèce de hiérarchie des métiers, genre wesh. Si t'es passionné genre d'histoire géo et t'as envie d'être prof d'histoire géo, mais c'est génial en fait. Enfin, au moins c'est vrai que c'est un truc qui me, en fait ça me fait vachement de peine. Je pense que c'est un truc générationnel. Hein.
Ah oui.
Je pense que je sais pas nos parents peut-être c'est bizarre parce qu'en plus ils ont pas tellement vécu le chômage, c'était les 30 glorieuses et tout, mais je sais pas, cette espèce de vraiment tu dois trouver un taf où il y a des débouchés, genre
t'as
le terme débouché.
Oui.
Et alors que moi vraiment, enfin ce que je vois aujourd'hui après avoir rencontré vraiment énormément de gens, c'est que en fait tu peux aimer genre faire du triangle.
Oui.
Si t'es passionné par le triangle, tu vas être épanoui. Oui. Je peux te dire que tu vas être tellement épanoui et fort dans ton domaine que tu vas devenir premier triangle de l'orchestre national 2. Et en fait, il faut arrêter de se dire ça arrive qu'aux autres.
Si
t'es passionné et que t'es prêt à do the work, je veux pas dire qu'il faut pas travailler, mais travail plus passion égale réussite.
Réussite, franchement.
Et il faut arrêter avec les peurs de machin.
Ouais,
c'est tant que t'abandonnes pas, que tu te donnes, que tu crées tes opportunités. Enfin, je suis désolée de pousser un coup de gueule, mais vraiment, il y a tellement de parents qui étaient là, genre, il faut que tu fasses cette filière parce que t'as un poste à la fin. En fait, si t'avais voulu faire elle et que t'étais passionné de littérature, t'aurais kiffé ta vie, t'aurais fait de la recherche, on s'en fout, dans la littérature, mais t'aurais été heureuse.
Ouais, totalement. Non, mais ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a aussi beaucoup de parents qui ont ce réflexe de, comme de protection, de vouloir s'assurer, en fait, de ton avenir.
Non, mais ça paraît une bonne intention.
C'est le cas, mais ça te bride.
Bah, je pense que ça donne pas le résultat final, quoi.
Non, ça te bride vraiment beaucoup. Et du coup, moi, j'ai choisi droit parce que J'ai forcé la chose, hein. J'ai forcé la chose et mon père était en mode, bon, ok, vas-y, je te fais confiance. Ma mère était pas contente du tout. Ma mère, par contre, était pas ça, elle était pas du tout rassurée. Elle voulait à tout prix que je fasse une école de commerce, vraiment rentrer dans les rangs. Et donc, quand je suis arrivée en droit, bah écoute, Dieu merci, ça m'a plu, ça m'a plu. Mais c'était un milieu un peu particulier. Hein. Le droit, c'était pas. C'est pas le milieu le plus agréable, on va dire. Mais ça va, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que je me suis jamais vraiment trop posé de questions. J'étais plus en mode, écoute, tu n'as pas à faire tes preuves. Tu révises bien, tu fais ce que tu as à faire et puis on verra bien ce que ça donne. Et finalement, je suis arrivée en Master 2 tranquille et j'ai adoré. Et ma meilleure année, ouais, ouais. J'ai adoré.
Et est-ce que quand tu naviguais dans tes années de droit, t'avais une idée précise à la fin de ce que tu voulais faire ou t'étais là genre on verra à la fin
Non, là-dessus par contre j'ai été carré, c'était avocat ou magistrate dès le départ. Et puis je me suis rendu compte que magistrate c'était plus une question d'ego, de me dire vas-y je vais faire les concours les plus difficiles de la filière. Parce que c'est le concours le plus compliqué de la filière, c'est l'ENM, donc c'est l'école nationale de la magistrature. Ouais. Et franchement c'était juste de l'ego déplacé en mode... voilà, je vais me montrer, je vais prouver aux autres que je peux avoir le concours, ce qui était ridicule. Étant donné qu'en fait, après avoir fait plusieurs stages et avoir regardé, ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit non.
Trop cool que tu aies eu ce réflexe. Ah, oui. En effet, les gars, si vous pensez à faire des stages, si vous pensez à faire un métier, testez-le avant.
Ah oui.
Parce que, en fait, l'idée que vous avez d'un métier est extrêmement différente de la réalité sur le terrain.
Seigneur, le ouais. Jour et la nuit. Je dis, bah non, c'est pas pour moi. Non, bye. Donc, et puis c'était très solennel comme métier. Magistrat, qu'on le veuille ou non, c'est extrêmement solennel. Donc il y a plein de choses que tu ne peux pas faire quand tu es magistrat. C'est-à-dire ouais. Que t'as des attitudes à avoir, t'as une vie à avoir. C'est trop, je ne peux pas. T'es trop contrôlé, trop bridé. Donc c'était non. Moi, je savais que c'était avocat dès le départ de toute manière. Mais voilà, du coup, j'ai annihilé l'idée de magistrat. J'ai conservé l'idée d'avocate. Après, il y a eu les réseaux sociaux qui sont implantés dans le projet. Donc du coup, là, maintenant, c'est en stand-by. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Là, je devais passer le barreau cette année. Du coup, avec le coronavirus et compagnie, j'avais pas envie de me mettre la pression. Du coup, je me suis dit... cette année, ouais. Peut-être l'année prochaine, c'est à voir.
Mais ça, c'est vraie question. Non, mais tu vois, parlons-en parce que je pense que de l'extérieur, je sais pas ce que les gens se disent. Dans ouais. Tous les cas, on peut pas généraliser. Il y a plein ouais. De gens qui disent des choses différentes, mais il y a d'un côté les personnes tu vois, qui s'obstinent à me demander ce que je veux faire plus tard. Ouais. Je suis là, genre,
vous avez pas
ce
compris.
Que je fais maintenant, c'est un métier.
Oui.
Voilà, il y a les personnes qui ne considèrent pas créateur ou créatrice de contenu comme un métier. Il y a des gens qui, au contraire, réalise qu'au bout d'un certain temps ou d'une certaine taille de communauté, tu peux en vivre et tu peux mener tes projets à bien et qui du coup se disent pourquoi est-ce qu'elle passerait le barreau par exemple.
Oui.
Donc, alors qu'en fait ils se rendent pas compte, c'est un message genre on est humain, en fait on est comme vous, on a les mêmes doutes. Moi aussi ça a été vachement dur quand même de me dire tu vois même est-ce que je finis Sciences Po ou pas. En fait d'un côté ça me sert à rien mais de l'autre j'aime l'école donc j'ai choisi de finir.
De continuer, ouais.
En vrai, moi, je me suis pas posé la question trop longtemps, c'est-à-dire que je me voyais pas du tout entrer dans une entreprise. J'ai envie de travailler pour moi. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé que ça me plaisait beaucoup trop pour y renoncer. Mais voilà, je pourrais me poser la question. Je sais qu'il y en a qui font le choix de continuer ce qu'ils font à côté et c'est leur kiff. Et genre, c'est pas une évidence quoi. Donc, toi, j'imagine que tu navigues en fait.
Totalement.
Qu'est-ce qui te fait hésiter?
Ce qui me fait hésiter, c'est plus le côté consécration. J'aurais bien aimé vraiment terminer définitivement le côté juridique définitif. Tu vois, avoir vraiment mon... juriste, c'est bien, mais tu vois, l'avocature, c'est ça.
C'est ce que t'as projeté. Donc en fait, c'est un peu comme à Sciences Po. J'avais envie quand même de me dire, j'ai le diplôme.
Exactement.
Quoi.
Je l'ai eu. Voilà. Pour moi, c'était vraiment l'objectif numéro un. Et du coup, j'ai ce sentiment de non terminé, non abouti.
Ouais.
En fait, qui me dérange un petit peu. Et de l'autre côté, en fait. Bah, il y a tellement de possibilités avec ce que je fais sur les réseaux, tellement d'ouvertures, tellement de portes que je commence à ouvrir les unes après les autres et je me dis, je peux pas renoncer à ça. Et le problème, c'est que l'avocature, purée, c'est du travail. Je peux pas dire comme ça, vas-y, je vais passer le barreau, comme si c'était le brevet, tu vois, non. Enfin, rester au collégien, c'est difficile.
Respect, on sait. À votre échelle,
c'est dur. Et tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si je dois passer le BSR ou je sais pas quoi, tu vois, c'est une vraie épreuve, je dois travailler minimum en plus. J'ai accumulé du retard, parce que même si je reste à jour, parce que c'est ma passion, mais malgré ça, j'ai accumulé du retard par rapport à ceux qui sont en cours 24h sur 24 en droit, et avec qui je serai en concurrence du coup lors du barreau, parce que ça reste un concours, tu vois. Normalement, c'est tous ceux qui ont 10 sur 20, mais forcément...
C'est par rapport aux autres.
Voilà, par rapport aux autres et par rapport aux copies, donc mine de rien, tu restes en concurrence avec les autres. Donc il faudrait que je me dégage une année. où je suis vraiment moins présente sur les réseaux, mais vraiment moins présente pour être à fond dans le barreau et dans la préparation du concours. Et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas dans mes projets. Donc il faut que je fasse le pour et le contre, de voir si j'ai envie vraiment de me développer à fond sur ce que je fais, parce que je sais qu'il y a énormément de débouchés très intéressants, ou me rétracter un petit peu et pousser.
En fait, je pense qu'il faut que tu te demandes, est-ce que tu as envie au final vraiment d'être avocate, est-ce qu'il ne faut pas se détacher de
aussi,
cette injonction à l'aboutissement c'est un aboutissement parce que c'est la société qui te dit que, Enfin, tu vois, je me dis, bien sûr, de toute façon, moi, je donne juste un conseil, mais c'est juste vrai que je me dirais, à ta place, j'aurais grave la même réflexion. Ce désir d'accomplir jusqu'au bout, mais en soi, jusqu'au bout de quoi, si tu veux pas être avocate, si tu veux pas avoir ton cabinet d'avocat, tu regretteras peut-être au final d'avoir entre guillemets passé une année de ta vie pour avoir un bout de papier à la fin
Et juste dire
qui dit bonjour Sally est avocate.
Totalement. Surtout que ce n'est pas compatible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au projet, de lier les réseaux sociaux et l'activité d'avocat, et ce n'est pas compatible.
Ouais, tu alors qu'il y a plein d'autres métiers où tu pourrais, tu vois, journaliste et tout, tu pourrais, mais avocate...
Avocat, c'est interdit, les revenus lucratifs sont interdits, donc ça doit être en rapport avec le droit. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si je deviens avocate, j'ai le droit de faire des vidéos que, par exemple, une juriste réagit. Tout le reste, c'est interdit. Parce que ça n'a aucun lien avec ce que tu fais, ça n'a aucun lien avec le droit. Donc,
mais uniquement si tu ouvres un cabinet, pas si t'as le diplôme du barreau.
Dès que t'as le diplôme du barreau, mine de rien, tu prêtes serment et tu deviens avocate.
Ah oui, enfin, donc en fait là c'est plus qu'un choix de je termine mon diplôme ou pas, c'est renoncer.
C'est un choix de vie.
Ah ouais.
Parce qu'en fait le principe en fait c'est que tu passes le CRFPA, le concours pour passer le barreau, mais le barreau tu l'as après un an et demi de cours, un an et demi de préparation, de formation pour devenir avocat. C'est pas une fois que t'as le barreau ça y est t'es avocate, non, il y a encore un an et demi à l'école d'avocat de un an et demi et là tu prêtes serment et tu, par contre là tu deviens avocat, tu es avocat pour de vrai, jeune avocat mais avocat. Et à partir de ce moment là toutes les autres occupations professionnelles que tu as, elles sont rayées. Tu ne peux pas avoir d'entreprise et être avocate. Donc, typiquement, tu ne peux pas être auto-entrepreneur et être avocate. Tu dois céder l'entreprise ou changer le nom. Enfin, ça devient hyper compliqué. C'est du gros drama pour pas grand-chose. Et puis, voilà. Donc, c'est un métier qui te limite, du coup.
D'accord. Ah ouais, je pensais pas. Donc, oui, choix de vie, en effet.
Ouais, c'est un choix de vie, vraiment.
Ouais. Et je ne sais pas, hein, mais est-ce que tu penses que, je sais pas, imagine là, tu vis ce que t'as à faire sur les réseaux et dans 5-6 ans, tu peux passer le barreau.
Je pense que
c'est possible ou c'est chaud?
Tu peux, parce que tu as le droit de passer le barreau jusqu'à 27 ans, 27 ou 28 si je ne m'abuse. Donc,
c'est juste charbonné quoi.
Devant moi. Oui.
Surtout que, comme tu dis, tu continues à parler de droit, ça t'intéresse énormément. Donc, t'as pas à déconnecter avec ce sujet.
Non. Et franchement, moi, je crois même que c'est même pas 27, je crois que c'est 31 ans. Hein. Le l'âge limite, j'ai même envie de faire une petite recherche rapide.
Ouais, les gars, on fait la recherche en direct. Vous aussi, vous êtes face à ce dilemme.
Exactement. Attends, âge limite.
Âge limite.
Barreau.
Mais limite, d'ailleurs, je trouve ça con, quoi.
J'ai toujours trouvé ça ridicule.
Pourquoi tu limites les gens?
Laisse tomber,
je crois que c'est le fondateur de KFC qui a fondé à 75 ans.
Oh, tu vois.
Donc, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est 31 ans.
C'est
voilà.
31 ans.
Donc là, ça te laisse grave du temps, quoi. Mais bon, il y a ce petit côté deadline qui...
Ah, il est là, quand même. Ouais. Il est là.
C'est
il est
un peu anxiogène. Mais
oui,
bon,
c'est anxiogène.
Ça te laisse le temps de faire ce que tu as à faire. Bah, là, typique, dis-nous, sur les réseaux, est-ce que t'as des projets? Comment tu le vis, les réseaux? Moi, je suis assez admirative de... Putain, t'es présente, quoi.
Ouais, je sais.
You're here, genre. Et ça, c'est aussi un truc, moi, j'ai de... Quand même, enfin, ça va, tu vois, j'ai réussi à me détacher de cette sorte de comparaison, mais c'est vrai que parfois... Moi, je culpabilise un peu de pas être autant là, tu vois, de faire
girl,
autant de
stories,
genre I'm here, mais tu vois, genre c'est, je trouve que t'es vraiment dans ce, mais je pense que c'est la différence, elle peut paraître con, mais c'est le fait que t'as commencé sur YouTube.
Ouais,
je crois qu'il y a un partage qui est très
naturel,
personnel et très, et en fait, moi j'ai, c'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait j'y pense pas. Mm-hmm. Genre en fait, je bosse tellement la journée que parfois je suis là, genre attends, il faudrait peut-être que je fasse une story, tu vois, juste pour dire que je suis vivante.
Ouais,
et... Mais toi, genre, je trouve que ton partage, il est... Toi, tu me fais rire quand t'as questions de téléphone, tu partageais tout, genre, que t'allais choisir le nouveau téléphone, les bons plans, les machins, enfin, tu vois, je sais pas d'où... Enfin, on sent que c'est naturel, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est naturel, mais ça me prend énormément de temps, et moi, c'est l'inverse, je songe à un petit peu diminuer ma présence sur les stories Instagram pour pouvoir bosser un peu plus, parce que parfois, c'est dingue, hein, c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte.
Ah ouais.
Tu peux passer une journée à faire des stories.
Ah mais de ouf, mais moi en plus je fais vachement de Q&A, genre le truc qui prend le plus de temps.
Ah oui,
mais bon, on sent que tu kiffes, tu vois, tu le fais pas juste pour
non, clairement pas, c'était un kiff.
C'était un peu comme si t'étais la psy, la
six. C'est vraiment ça, mais c'est un divertissement qui prend énormément de temps, et en fait, indirectement, sans me rendre compte, c'est du travail en fait. Et ça, c'est hyper difficile, malheureusement, avec ce qu'on fait, c'est de réussir à dissocier le moment où t'es sur tes réseaux comme n'importe qui, et quand t'es sur tes réseaux en tant que voilà, créatrice de contenu, en tant que my better self et pas en tant que Louise, tu vois, en tant que Chris Ali, pas Sally, tu vois. Donc ça, c'est vraiment compliqué parce que je me rends compte parfois en regardant mon temps
passer sur des écrans.
Et
t'as combien?
Franchement, bah là, je vais te dire aujourd'hui, mais il y a des jours où c'est 12 heures.
Ah ouais?
La journée complète.
Oh putain, tu me rassures.
Ah non, girl, il y a des jours où vraiment je me fais peur moi-même. Alors aujourd'hui, 11h27.
Oh, mais aujourd'hui, tes prescriptions, tu te remets un peu de... Vous inquiétez pas, ce n'est pas le Covid. Elle a juste eu une intoxication alimentaire. Elle a été testée.
C'est ça, j'ai eu une intoxication alimentaire et je suis restée toute la journée au lit en faisant des revues musicales de l'album de Damso qui est sorti.
J'ai vu, ouais.
11h27 sur le téléphone.
Putain, moi c'est plutôt 4-5 heures.
Ah,
4 heures, je crois, dans les bons jours.
Ah, bah, tu vois, mais j'essaye vraiment de réduire parce que ce n'est pas possible. 11 heures sur le téléphone et à côté, t'as l'ordinateur pour faire tes montages, tes yeux meurent.
De ouf.
Et tu es épuisé.
Et est-ce que toi, ça t'épanouit toujours autant les vidéos? Parce que moi, je sais que j'ai ce problème, parce que je pense que c'est bien, mais c'est aussi un problème de toujours besoin de diversité.
Ouais.
Et je sais que, bon, bah, tu vois, j'ai fait Insta peut-être un an et demi à fond, puis j'ai eu besoin de nouveautés, j'ai fait un podcast, puis un an à fond, puis j'ai eu besoin de nouveautés, puis j'ai fait YouTube, bref, maintenant j'en sais ma marque et tout.
Ouais.
Mais toi, tu restes à fond, je trouve, sur les vidéos et tu te renouvelles vachement bien. Est-ce que, parce que je trouve qu'il y a un peu, c'est vrai, différents profils de créateurs de contenu. Il y a ceux qui sont à fond dans la vidéo et qui, 10 ans après, font toujours autant de vidéos, c'est leur passion, c'est la vidéo, tu vois. D'autres qui, au contraire, ont besoin de se lâcher, tester différentes choses, faire différents projets et tout. Toi, tu le vois comment?
Bah, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que c'est par phase. Déjà, c'est par phase. Moi, j'ai que deux réseaux, par contre, c'est Instagram et YouTube. Je pense peut-être à développer TikTok parce que c'est la nouvelle interface et comme Instagram, bah, tu sais, maintenant il y a les Reels.
Ouais.
Tu sais, donc autant en fait faire mon TikTok et le poster sur Instagram.
Non, mais on a tous eu cette réflexion, un peu comme les stories sur Snap et sur Insta. Et j'espère que ça va faire pareil et qu'au final on ira plus sur Snap et on ira plus
sur Insta. C'est totalement la même chose.
Ouais.
Donc voilà, peut-être, mais pour le moment c'est en cours de réflexion. Mais moi, mes deux réseaux, c'est Instagram et YouTube, c'est vraiment là où je passe le plus de temps. Et à la base, moi j'étais vraiment que sur YouTube. Et quand j'étais que sur YouTube, bah forcément ma chaîne elle marchait très bien, tu vois, c'est-à-dire que je m'amusais réellement et les gens adoraient parce que j'étais très présente et très active. Je suis arrivée sur Instagram et j'ai voulu développer mon Instagram parce que c'était un réseau que j'aimais bien aussi. Et du coup, j'étais très présente, les gens aimaient beaucoup parce que j'étais très active. Mais en fait, à un certain moment, je ne suis qu'une seule personne, je ne peux pas être aussi présente sur les deux en même temps. Donc j'ai des phases, parfois je privilégie Insta, parfois je privilégie YouTube. Mais le problème, c'est que maintenant, je suis arrivée à un stade où on est un peu dans le flou. Parce que les gens ont quand même l'habitude de me voir en tant que YouTubeuse et pas uniquement en tant qu'Instagrammeuse. Et ça, c'est vrai que les YouTubeuses beauté, par exemple, elles ont cette chance-là, on va dire cette chance. C'est qu'elles peuvent délaisser YouTube pendant très longtemps, elles continuent à faire leur contenu beauté sur Instagram en fait, donc on ne sent même pas la différence, alors que moi, un contenu politique posé, etc., tu peux pas vraiment le poser sur Instagram, c'est pas le bon format. Donc les gens, ces derniers temps, les remarques que j'ai beaucoup, c'est quand est-ce que les vidéos sérieuses reviennent, quand est-ce que tu repostes, quand est-ce que tu reviens sur YouTube, parce que les vidéos que je poste en ce moment sur YouTube, c'est par exemple mes vlogs déménagement ou des vlogs vacances, ça ne remplit pas leurs besoins et leurs attentes de vidéos sérieuses auxquelles je les ai habitué. Donc je suis forcée là un petit peu de revenir sur YouTube et de délaisser un petit peu Instagram, parce que c'est aussi une question d'image, de marketing en fait. Finalement, tu vois, c'est comme t'as ton entreprise, les gens t'attendent au tournant pour une chose, tu peux pas éternellement leur proposer autre chose. Donc c'est vrai que c'est plus ça qui est compliqué sur ces deux réseaux.
Ouais. Mais tu vois, moi pour le coup, je crois que je suis en train de me faire dévorer par les moustiques.
Ah.
J'ai trop le seum. C'est pas grave, c'est le prix à payer pour passer un bon moment sur la terrasse. J'ai recherché un drap après pour mes jambes, mais tu vois, non, je nuancerais tes propos dans le sens où je pense qu'il faut se rappeler qu'on est forcé à rien.
Ça, c'est vrai.
C'est-à-dire que, bon, je te connais, voilà, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus, c'est on a envie de parler de sujets qui comptent.
Ouais.
Voilà, je sais que t'auras toujours quelque chose à dire et un message à passer, mais si t'as envie de faire plus de vlogs déménagement, de vlogs de vacances, je pense que ce qui est important, c'est que tu te fasses plaisir et de toute façon,
aussi,
ça se ressentira, tu vois.
Bien sûr.
Si à un moment tu te sens forcé à faire des vidéos, je pense
totalement.
Que c'est aussi... C'est, il faut aussi savoir se dire, même si c'est dur, ben, ok, les gens sont venus entre guillemets pour un certain contenu, mais si toi ce qui t'épanouit plus c'est tel contenu, ben,
c'est
fais-le.
Ça,
enfin,
c'est
moi
ça.
J'ai tellement bifurqué, moi tu me suivais il y a 4 ans et demi, mm-hmm. non 4 ans, je parlais de fitness et de recettes healthy. Donc, autant te dire que c'est vraiment ce que, je partage, tu vois. Mais parce que ben, j'ai voulu parler de féminisme, j'ai voulu parler de mode responsable, enfin. Tu vois, je pense qu'ils évoluent aussi avec nous, quoi.
Bien sûr. Non, franchement, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile. T'as l'impression de... T'as l'impression toi-même, pas de te trahir, mais comme si, tu sais, t'as l'impression de...
Mais t'as envie de décevoir, quoi, au final.
Ouais. T'as l'impression de pas faire ce que t'es censé faire, parce que t'as l'impression que tu deviens un peu à leur service. Et c'est hyper important de te rappeler qu'à la base, les gens te suivent parce que tu fais ce que tu veux.
Ouais.
Pas parce que tu es mandaté pour quelque
pour
chose, en fait.
Pour telle vidéo et tel contenu, ouais.
Mais ça, c'est encore un travail aussi que tu fais petit à petit quand tu avances dans les réseaux sociaux. Moi, je commence à m'y habituer, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu embêtant, tu vois. Surtout après les événements de violences policières à la sortie du confinement, c'était vraiment... j'étais associée vraiment à mes vidéos très sérieuses. Les gens me voyaient vraiment que par ce prisme-là. Et quand j'ai commencé... Parce que c'était très proche, en fait. Ça a commencé vers avril-mai. Et donc, quand je suis partie, ben, justement, en Martinique, vers juin-juillet, et que j'ai commencé à poster des contenus beaucoup plus chill, beaucoup plus summer vibes et tout, c'est vrai que les gens ont du mal à s'adapter, tu vois. Ils étaient un petit peu en mode, mais... où sont les vidéos sérieuses, Donc, cette pression-là, je l'ai vraiment ressentie. Mais ouais, j'ai travaillé dessus en mode, girl, chill, it's okay, tu vois. Fais tes vidéos si t'en as envie. Poste ce que t'as envie et tu dois rien à personne. Mais indirectement, je sais que quand même, tu vois, s'il faut que je relance ma chaîne, il faut quand même que je revienne avec des vidéos sérieuses. Après, ça me plaît aussi, hein, c'est pas non plus un fardeau. Mais c'est vrai que parfois, je me sens quand même un peu... prisonnière de
mon audience. Mais tu sais quoi, franchement, en toute transparence, et je pense que moi j'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais c'est forcément une réflexion qu'on a en tant que créateur et créatrice de contenu. Enfin, tu vois, j'en parle souvent, pas souvent, mais j'en ai déjà parlé avec ma soeur jumelle, de cette espèce de. En fait, c'est aussi un choix de vie, dans le sens où si tu veux pouvoir faire ce que tu veux sans que les gens t'attendent pour un certain contenu, faut que tu vlogues.
Ouais.
Faut que tu vlogues, et tu vlogues toute ta vie, mais ça sous-entend. Ben, ne rien cacher, ça sous-entend avoir aussi des personnes qui te suivent, qui, quand elles te croisent dans la rue, en fait, ont l'impression d'être avec une pote et du coup se sentent tout permis, entre guillemets. Ça veut un peu dire, c'est pas de la télé-réalité, mais presque, tu vois, les vlogs, c'est la vie de tous les jours. Et de l'autre côté, tu vois, d'autres créatrices de contenu, aussi des grandes communautés. Moi, je sais que j'ai déjà parlé de Best Dressed, qui est une fille que j'adore sur YouTube, qui est américaine, ben, qui sort moins de vidéos, qui fait des vidéos plus travaillées. Moins vlog, et qui, en fait, du coup, a quand même une vie privée, qui se fait pas harceler dans la rue, et qui... Enfin, tu vois, c'est un choix aussi, quoi. C'est soit tu vas all-in, mais avec ce que ça va entraîner derrière, en termes de conséquences dans la vie privée et tout, ou alors t'es un peu plus en retrait, mais tu travailles peut-être plus ton contenu, tu fais plus du contenu qui te ressemble, et peut-être que t'es moins libre dans ton contenu, entre guillemets, mais au moins, t'as encore une vie, fin, tu vois, mais c'est cool, mais c'est une réflexion qu'il faut aussi qu'on commence à avoir quand t'as des tailles de communauté qui grandissent.
Totalement. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, mon objectif, c'était plus du coup de me retirer et d'adopter un côté un peu plus professionnel à la chose, tu vois, rendre ma chaîne plus comme vraiment une chaîne de télé où je ferais plus d'interviews, plus de... Tu vois, je ferai intervenir plus de personnes pour éviter vraiment que cette chaîne soit trop associée à moi, tu vois, pour diminuer un peu la charge.
C'est une charge mentale de ouf.
Vraiment. Donc, c'était vraiment mon objectif. Mais après, je sais que je prends énormément de plaisir à la facecam, donc je sais pas. Ouais, franchement, j'ai des phases. J'ai des phases où j'ai envie de faire que des ITV, que des reportages et rester un peu dans mon coin. Et puis, il y a des phases où j'ai vraiment envie de faire plein de vidéos, plein de FAQ, plein de concepts, plein de tutos. Donc voilà, j'essaye de jongler un petit peu entre les deux. Après, franchement, j'attends cette fin d'année impatiemment parce que l'année 2021, du coup, il y a des gros projets et tout. Donc, je vais voir comment ça va évoluer. Et surtout, là, faire le deuil de cette année.
Entamer un nouveau livre.
Brûler la bibliothèque et repartir à zéro. Ouais, c'est vraiment ça ce que j'attends.
Est-ce que toi, t'as envie de rester en France ou t'as pensé à bouger à l'international ?
En toute honnêteté, si j'étais pas partie à Londres pendant un an, là, je serais partie. Franchement, c'est sûr.
Enfin, cette année, non, du coup.
Ouais.
t'aurais voulu partir, quoi.
J'aurais clairement voulu partir. En toute honnêteté, je pense que j'aurais emménagé, j'aurais cherché un appart à Londres. En tout cas ailleurs.
Ouais.
Franchement.
Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas retournée à Londres, par exemple ?
Ça a fait que, malheureusement, et maintenant que j'ai pris mes habitudes à Paris et qu'il y a tout à Paris pour ce que je fais en tant que créatrice de contenu, je trouve que ce serait finalement me complexifier les choses que d'aller vivre à Londres juste pour mon confort et ma sensation de bien-être. Parce que quand j'étais à Londres, je me sentais vraiment bien. C'était vraiment... je me sentais vraiment bien.
Ah, tu sentais mieux qu'à Paris.
T'expliquer. Je pense.
Ok. Et,
presque, parce que Londres, il y a aussi la météo qui joue. C'est pas...
Non, mais faut pas sous-estimer
pas
ce truc.
Je t'assure.
C'est réel. Moi, de novembre, je suis déjà en train d'angoisser. Hein.
C'est réel.
Je crois que je vais aller à Dubaï.
Oui.
C'est con, parce que c'est pas forcément un pays qui m'attire de ouf.
Ah, oui.
Parce que je viens de très culture et tout. Mais le mois d'octobre, novembre est genre hyper dur pour moi. Et j'ai une de mes meilleures potes qui est partie travailler à Dubaï. Elle va pas me dire, viens me voir, viens me voir. Donc j'attends de voir comment ça se goupille avec le Covid. Mais. Si je dois y aller, ce sera fin octobre, début novembre, tu vois.
Non, mais le manque de soleil, le manque de lumière, le froid qui commence à nous... Et à Londres, c'était comme ça presque toute l'année.
C'est tellement dommage. Moi aussi, j'adore tellement Londres. Londres avec le soleil, ce serait le paradis.
Ce serait le... Tout le monde partirait, je pense.
Ah ouais, je pense, en effet.
Mais la météo était calme.
Non, parce que tout le monde n'adore pas ce côté très ouvert d'esprit, extraverti.
Ouais,
enfin, si, pour moi, Mitterrand, je les imagine là-bas, il serait triste comme pas d'eux. Il pourrait pas faire de clichés, de préjugés.
Alors,
genre...
oups, ouais, bah non, là,
c'est une vie hyper ouverte.
Totalement. Et ça, je me sentais comme un poisson dans l'eau. C'est la première fois que je suis arrivée dans un pays où je me disais, I'm feeling home, tu vois, genre vraiment, je me sens à la maison. J'ai cette sensation, bien sûr, quand je suis à Paris, parce que j'ai tout, tu vois, j'ai vraiment toutes mes habitudes, tous mes amis, donc voilà. Mais si j'avais pu partir, ce serait à Londres. Maintenant, à l'heure actuelle, non, c'est plus d'actualité. Qui sait, dans quelques années, je pense pas forcément finir ma vie en France, mais en même temps, l'idée de finir ma vie en France ne me fait pas peur.
Peut-être
pas finir ma vie, mais de passer un grand moment de ma vie en France, ça ne me fait pas peur non plus, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est plus d'actualité de vivre à l'étranger.
Si on en vient maintenant, j'aime bien toujours parler des recommandations qu'on aurait à faire pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, il y a des livres qui t'ont marqué, que tu as envie de recommander, des vidéos, des films?
Sur ça dépend quel thème.
Ah non, mais c'est ce que tu veux. Si là, ils doivent demain acheter un livre ou regarder un film, recommandé par Sally.
Ok, bah, je vais quand même donner un film, une série et un livre.
Trop
comme
cool.
Ça, voilà, je fais vos recommandations.
Ah, c'est Noël.
Yeah. Donc, commençons par la recommandation série. La recommandation série, c'est When They See Us de Ava DuVernay. Tu l'as pas entendu? T'as pas entendu parler de cette série? Dans leur regard, en français.
Je te dis, moi, vraiment, j'ai recommencé à kiffer les séries quand j'ai regardé une super série qui s'appelle The English Game sur Netflix,
okay.
Qui est l'histoire du football.
Ok. Ah.
Six épisodes, c'est tout. Ça m'a dégoûté. Je suis retournée dans ma taverne.
D'accord.
Ah ouais, oui, donc, non. Ça, mini-série.
En plus,
donc,
c'est rien.
Tu deviens accro, évidemment. Ouais. Et plot twist, l'épisode où il se passe vraiment pas mal de choses. T'étais là, genre, oh cool, il se passe pas mal de choses. Évidemment, c'est le dernier épisode.
Ah ouais. Bon, malheureusement, je te crois que ça s'est pas fait comme ça.
Bah écoute, c'est vrai, ça, il la recommande.
Franchement, elle est super top et c'est sur les injustices dans le système carcéral américain. Donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est une histoire vraie.
Okay.
Donc, tu n'as pas cet échappatoire de c'est trop.
Ouais.
C'est inventé.
Ouais,
non, c'est vrai.
Ouais.
Et c'est hyper intéressant, c'est vraiment à voir. Et sinon, la deuxième série que j'ai beaucoup aimée. C'était... Non, mais là, c'est vraiment trop de mémoire, girl. Je t'assure que j'avais...
J'adore. Non, mais t'as une semaine difficile.
Je l'avais en tête, il n'y a pas deux minutes.
J'adore, parce qu'en plus, c'est... Tu me vends le truc, genre, j'ai une série, j'ai un film, j'ai...
J'aurais...
On n'a pas les noms.
Il n'y a pas deux minutes. J'étais là en train de réfléchir et tout, j'étais en mode, ah ouais, c'est celui-ci, il faut grave que je la dise. Et là, je l'ai oublié encore une fois. C'est horrible. Oh mon Dieu, la fatigue.
Alors, imagine... Un film, si tu repose la question peut-être, tu vois, un film que t'as
recommandé... Ouais, non, mais on va laisser tomber la série, hein.
T'as vraiment...
laisser tomber la série, là.
Oui, c'est le film.
Ah, non, mais parce que j'avais une deuxième série à leur proposer.
Ah, t'avais une deuxième série,
mais
d'accord.
Mais il y a plus de...
Mais t'as le film ou pas?
Oui, mais
ah,
ça, c'est
d'accord.
Génial. Alors, pour le film que je recommande à tout prix, c'est... de Stéphane Daldry, et c'est The Reader. C'est un livre, là aussi, inspiré d'un livre, bon là, pas de fait réel du coup, mais d'un livre qui est génial, et avec Kate Winslet en actrice principale.
Il paraît que je lui ressemble.
Dans Titanic.
Ouais, dans Titanic.
Quand elle était très jeune.
Ah, oui. Parce que là, elle est plus âgée.
Non, mais là, maintenant, non, tu ne ressembles plus trop.
Dans The Reader.
Oui, dans The Reader.
Mais j'aime bien comme actrice.
Très forte. Excellente prestation dans ce film, à regarder, parce qu'il nous pose des questions très intéressantes sur la... tolérance, l'amour. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Donc petit, c'est même pas un spoiler, mais c'est juste un peu le synopsis. Mmh. C'est donc un jeune garçon de 15 ans, très très jeune du coup, qui tombe amoureux d'une femme très mature qui a genre 40 ans. Donc déjà, tu vois, c'est cet amour très interdit, tu vois. Du coup, tu regardes le film, tu te dis, purée, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, tu vois, donner ton avis dans quelque chose qui ne te regarde pas, mais qui indirectement regarde quand même la société. Et puis en plus de ça, après, t'apprends un terrible secret sur cette femme-là, que je ne vais pas dire pour éviter de spoiler les gens, mais vraiment un terrible secret. En gros, t'apprends que c'est vraiment une criminelle, enfin qu'elle a vraiment aucun respect pour la vie humaine, comme ça, pour ne pas trop spoiler, mais bon, voilà, c'est déjà dit. Et le garçon tombe des nues, mais reste amoureux d'elle, et garde une certaine sensibilité pour elle, et continue à l'aimer avec le temps qui passe. Et du coup, c'est vraiment un film qui te fait poser énormément de questions sur ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et finalement notre propre relation au bon ou au mauvais, parce que parfois on critique beaucoup de choses qu'on fait quand même. Bref, un film hyper complexe, hyper intéressant. Et surtout, jeu d'acteur parfait, énorme réalisation, un de mes réalisateurs préférés. Donc vraiment, s'il y a un film que je conseille à chaque fois d'aller regarder, c'est celui-ci. Donc voilà. Et pour le livre, franchement, un bon vieux classique de la littérature française, mais que j'ai adoré relire de nouveau, c'était Les mots de Jean-Paul Sartre, sa biographie. Je l'adore à chaque fois. Et pour moi, être éloquent, c'est aussi passer par la lecture de très 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 bons livres. Et c'est vrai qu'on me demande souvent parfois, oui, comment tu fais pour avoir tel vocabulaire, comment tu fais pour bien parler, comment tu fais pour gérer en fait ta diction. Et je t'assure que lire des bons livres, mais ça change le niveau, ça change ton game, tu vois, ouais. Tu step up totalement. Et ce livre là en tout cas, je le recommande déjà parce qu'il est excellent, il est super intéressant, il parle en plus de ce dont on a parlé, de comment dire, le développement de soi, comment réussir à trouver sa propre voie, parce qu'à la base, tu sais, Jean-Paul Sartre, c'était le petit-fils d'Albert Schweitzer, donc dans la médecine, et lui, il décide comme ça d'être écrivain et de faire sa vie, et de finalement décevoir son grand-père et son père et toute sa famille. Donc c'est hyper intéressant, cette recherche de soi dans ce livre, et puis en plus de ça, avec un français d'une qualité absolument incroyable, et ça te permet en plus de ça de réapprendre tes bases de littérature, donc ce serait ce livre.
C'est marrant parce que pour le coup, j'ai pas lu les mots, mais pour moi Sartre c'est quand même quelqu'un d'assez pessimiste. Le livre est pas trop parce que développement de soi, c'est, je sais pas, j'ai pensé développement personnel, j'étais là, bon, pour moi Sartre développement personnel, ça va
fait
pas
deux,
trop ensemble.
Pas tellement, mais je te promets que en fait c'est pas, le livre n'est pas pessimiste.
D'accord.
Le livre est réaliste, cru de vérité, et
ouais.
Tu vois vraiment l'évolution de quelqu'un à contre-courant en fait de ce qui était tracé pour lui, parce qu'effectivement c'est vrai que sa manière d'écrire c'est pas le truc le plus happy et friendly du monde, mais en fait finalement indirectement, qu'il le veuille ou non, c'est il était un symbole en fait dans sa vie de développement personnel, comme il a choisi la voie qu'on n'avait pas tracée pour lui du tout, et il est vraiment à l'encontre de ses parents et de son éducation et de tout, et il devient voilà le petit écrivain qui prend des cafés dans les quartiers de Paris, et c'est super intéressant, vraiment.
Okay. Trop
cool. Intéressant, vraiment.
Est-ce que il y a une question que j'ai vue comme ça, que j'ai trouvé hyper intéressante, je crois que c'est Tim Ferriss qui l'a posée, c'est quel est le meilleur investissement que tu as fait à moins de 100 euros ?
Du temps pour moi.
Wow.
Du temps pour moi.
C'est beau. C'est quoi tes petits rituels de self-care ?
Dormir, déjà dormir, et puis méditer. Alors la méditation, c'est... underrated, la méditation c'est underrated, c'est top pour l'esprit, pour le mental. J'ai une chaîne carrément de vidéos de méditation en fait que j'écoute en arrière-plan avec une petite voix calme qui te dit ce que tu dois faire, calme-toi. Bon, c'est pas de l'ASMR, enfin l'ASMR certaines personnes aiment beaucoup aussi, mais voilà, quelque chose pour se détendre, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi, et aussi parfois tout simplement prendre ce que j'aime beaucoup faire. C'est me poser dans mon lit, prendre mon cahier de feuilles blanches en fait, et écrire, et ce qui me passe par la tête, et ça me permet vraiment de faire le vide et me recentrer sur moi. Donc,
trop cool.
Prendre du temps pour soi.
Ouais, vraiment. Très bon tips.
Vraiment.
Bon, du coup, je vais te poser la question signature du podcast, de l'épisode. Yeah. J'espère que, comme moi, chers auditeurs et auditrices qui sont arrivés au bout du podcast, vous vous dites quoi ? Ça fait déjà une heure. Oui, ça fait déjà une heure. Et tu vois, franchement, si ça tenait qu'à moi, je ferais des épisodes de 2 heures. Mais en fait, je sais pas, j'ai peur que ce soit peut-être pas accessible à tout le monde, que tout le monde ait 2 heures pour l'écouter.
Oui.
Bon, après, moi, je les écoute toujours en séparé, de toute façon, les podcasts. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'au bout d'une heure, j'ai un peu ce truc de me dire, oh, déjà, mais bon, il faut peut-être arrêter l'épisode.
Peut-être donc, ouais.
Après, vous qui nous écoutez, vous poussez un coup de gueule en mode, mais attends, Louise, non, on aurait aimé que l'épisode dure encore une heure. Dites-le nous. On le saura. Et j'enlèverai ma barrière mentale de, au bout d'une heure, peut-être clôturer l'épisode.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, mais du coup, la question signature, je pense que tu la connais déjà. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est être le maître, en tout cas la maîtresse de son petit bateau. Donc je me souviens de cette citation, c'était Invictus, maître de mes pensées, maître de ma vie. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est se réveiller et se dire, je vais vivre comme je décidais de l'entendre. Et petit à petit, se remplir en fait les objectifs que tu t'es posé à toi-même. Et surtout, c'est vraiment quelque chose d'important, et je le dis, tenir les promesses que vous faites à vous-même. C'est les promesses les plus importantes à tenir. Donc faites ce qui vous rend vraiment heureux. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie. C'est vraiment se dire, voilà, hier j'avais dit que je voulais faire ça. Bah, je le fais en fait. Parce que je me le suis promis à moi-même. Et s'il y a une personne à qui je dois rendre des comptes, en fait, c'est moi justement. C'est pas la société, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton... C'est pas tes enfants, c'est personne. Sauf toi. Donc, pour moi, c'est ça.
Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup, Sally, d'être venue sur InPower. C'était grave cool.
C'était génial.
Je suis grave contente qu'on ait fait cet épisode. Pour les personnes qui t'ont découvert avec ce podcast, où est-ce qu'on les redirige?
Mon Instagram, c'est itscrazysally. Et ma chaîne YouTube, c'est crazysally. Donc, normalement, c'est facile à trouver.
Ouais, trop cool. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et écoute, je te dis à très bientôt.
Ciao, ciao. Bisous, tout le monde.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Sally. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @itscrazysally et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qui pourraient aider et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.